De cette époque-là, la police de cette époque-là, puisque dans ce fait divers, en fait, la police a été extrêmement efficace. Elle recherche, enfin, pour dire les choses rapidement, un couple, Marguerite et Julien Ravalet fuient, ce n'est pas dans ce livre-là, hein. Et en fait, en quelques jours, finalement, ils sont trouvés dans Paris, grâce au quadrillage qui est fait, puisqu'il y avait un quadrillage secteur par secteur, avec des commissaires qui géraient chaque secteur. Et j'ai découvert que finalement, le Paris de cette époque-là était à la fois proche du Moyen-Âge que je connaissais par l'aspect truculent, et à la fois très éloigné par l'aspect criminalité, qui était terrible. Et du coup, j'ai commencé à fouiller, et comme je voulais travailler sur l'alchimie depuis longtemps, mais surtout pas sur les aspects de l'alchimie qu'on connaît, sur des choses beaucoup plus proches de la médecine, j'étais obligée d'aller vers la Renaissance et l'époque où les deux se sont croisés. Donc voilà, c'est la conjonction de tout ça qui a fait que Paris est devenu un des personnages de cette trilogie.
Laurence Lefebvre, quel est votre rapport à Paris ?
Alors, d'abord, moi, il faut vous dire que je suis bouquiniste sur les quêtes de Seine. Je suis toujours bouquiniste, donc je travaille vraiment au plein cœur de Paris, qu'est Montebello. J'aime marcher, donc c'est vrai que je me balade beaucoup dans Paris. J'aime Paris, même si je n'aime pas ce que Paris est en train de devenir. J'aime bien les vieux quartiers, de moins en moins populaires, hélas. Moi, j'aime les quartiers populaires. Hein. Mais il y a des très beaux quartiers... riche, entre guillemets. Bon, c'est une belle ville. Et c'est vrai qu'avec Liliane, on a énormément marché. Bon, maintenant, malheureusement, elle ne peut plus trop faire ce qu'elle faisait. Donc, je suis souvent seule à me balader. Et on choisit un peu aléatoirement des quartiers, des adresses. Et ensuite, on fait tout à l'envers. Et ensuite, je vais vérifier que ça puisse bien servir de décor et d'adresse aux personnages qu'on a inventés. C'est ce que je viens de faire, d'ailleurs, pour le livre qu'on est en train d'écrire. Alors qu'on a déjà commencé depuis plusieurs mois, je viens d'aller vérifier certaines rues, ce qui m'a emmenée dans des quartiers très différents, et j'avais l'impression d'être à l'étranger. J'étais fascinée, quoi. Je suis allée dans le quartier de Bonne Nouvelle, il y a des rues formidables. Après, je suis allée à la rue de la Pompe, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Et après, je me suis retrouvée à Montmartre, au bas de Montmartre. Et ça, c'est un grand plaisir, c'est vrai. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de voitures, trop... Sans ça, marcher dans Paris, oui, moi j'adore. Puis c'est vraiment que c'est mon univers, Paris. Je suis née dans le 12e, j'ai vécu à Saint-Mandé, j'ai vécu à Vincennes, je vais vivre à Montreuil, j'ai déjà vécu à Montreuil, je travaille au centre de Paris. Donc c'est pas une frime, c'est pas parce que c'est pas une supériorité de parisienne, hein, c'est mon monde. Voilà.
Avec Jérémy Nelson, et notamment qui va travailler dans un cabaret. On est dans le quartier de Belleville, si je ne me trompe pas.
Oui, alors ça nous paraissait au début, on avait un peu peur, parce que Belleville a été énormément utilisée par énormément d'écrivains. Puis on s'est dit, bon, bah, ça collait bien à l'ambiance qu'on voulait. On ne voulait pas aborder les années 20 par le quartier Montparnasse, parce que ça nous semblait vraiment trop facile, tout le monde le fait. Donc on s'est dit, on va se situer sur la rive droite, on va essayer de trouver un quartier très populaire. Et ensuite, on a aussi choisi le quartier de la Bastille, parce qu'il se trouve que ma famille, qui était des gens très très pauvres, émigrés d'Europe centrale, ont vécu rue de Lappe, j'étais pas encore née, à un moment où c'était un quartier misérable, où c'était pas devenu un quartier de stylistes et de boîtes chic, c'était vraiment très pauvre. Et on voulait qu'il y ait des scènes qui soient situées là, parce que ça nous parle directement... Liliane est née en 40, elle a vraiment été imprégnée de tout ça. Et donc, voilà, on a choisi ces quartiers-là. Maintenant, pour la suite des prochaines aventures de Jérémy Nelson, on va changer un petit peu, on change de quartier. Mais c'est vrai qu'à force de parler de Paris, on a fait le tour, nous, de tous les quartiers.
Donc, vous avez changé d'époque.
Mais on a changé d'époque. Mmh. Et le Paris des années 20 n'est pas le même que celui de 1900. Oh, c'est vrai aussi.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a arrêté dans cette époque du Paris des années 20 ?
Mais ce qui nous a plu, c'est que d'abord, on est des trouillards de toutes les deux. Donc parler d'une époque, on voulait une époque d'après la guerre. Voilà. On avait choisi les années, la fin de siècle, parce que c'était une époque relativement stable, en France en tout cas, et qu'on n'avait pas envie de parler de guerre. Je crois qu'on a été marqués toutes les deux par ça, même si je suis née en 51. Bon. Et puis après, on s'est dit, comme on va faire un saut dans le temps, on va joyeusement passer la guerre de 14-18. On se retrouve donc dans une époque un peu en reconstruction, une époque instable, une époque qui essaye de revivre, de repartir sur d'autres données, et où les gens ont envie de s'amuser, évidemment, comme après toutes les guerres. Mais évidemment, il y a beaucoup de misère, et c'est pas que de s'amuser, hein, c'est pas que faire la fête. Mais bon, comme on parle de musique, de jazz, on s'est dit, ça va nous-mêmes nous faire plaisir d'être un peu dans cet univers artistique où les gens, d'ailleurs, nos personnages ne sont pas des gens très riches, hein, ils tirent le diable par la queue. Comme mon propre père, qui était chansonnier, et qui n'a jamais réussi, en fait. Bon. C'est un peu ça, quoi.
Vous dites de votre héros qu'il s'approprie en chat errant cette ville fabuleuse. C'est une belle expression qui décrit bien justement cette...
Oui, c'est vrai, il est un peu errant comme on peut l'être nous-mêmes, oui.
Viviane Moore, vous, le pari dont vous parlez est un pari fondamentalement violent, hein, on le disait tout à l'heure. C'est une époque, vous me disiez, qui était terrible et vous la décrivez très bien. On voit notamment... Ce gibet horrible de Montfaucon.
Montfaucon, oui, voilà. Tout à fait, qui était un petit peu à l'écart de la ville. Il y a d'abord la place de Grève en plein centre, hein, parce qu'il y a encore des traces de ce Paris-là, bien sûr, hein, au centre, mais c'est vrai qu'il y a des lieux terribles et Montfaucon était un de ceux-là. Mmh. Donc, assez difficile à décrire d'ailleurs, parce que quand on pense gibet, on pense une fourche et c'est tout. Or, pas du tout, c'est une espèce de construction énorme avec plusieurs gibets dessus, toute une structure. Personnellement, quand j'ai travaillé dessus, je ne connaissais pas du tout cette structure-là. Je ne l'avais pas croisé auparavant, mais le roi avait besoin de quelque chose d'exemplaire. Et donc, en plus, c'était un lieu où on laissait les cadavres, donc jusqu'à ce qu'ils tombent. Et là, on les mettait dans une fosse en dessous, puisqu'il y avait des trappes et on mettait les restes quand ils étaient bien nettoyés. Ou s'il y avait trop de nouveaux, trop de nouveaux clients. Et donc c'est vraiment un endroit très particulier qui attirait aussi, qui à la fois repoussait et attirait. Donc il y a toute une histoire autour de Montfaucon. Et on va pas déflorer le livre, tout mais le notamment des gens aussi qui venaient voler les cadavres. Alors les voler pourquoi ? Pour des buts très différents. On est en plein à cette époque-là. C'est une époque magique, il y a beaucoup de mages, il y a beaucoup d'oracles, il y a beaucoup, donc il y a des aspects comme ça. Voilà, il y a beaucoup, je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a tout un ressort qui est lié à ce gibet. Mais donc, oui, il y a comme ça des lieux terribles. Et ça m'a intéressé de traiter de celui-là. J'avais traité de la place de Grève déjà dans un précédent livre.
Place
et
de
du
Grève,
Châtelet.
Où étaient pratiquées les
exécutions. En fait, il y avait plusieurs lieux d'exécution dans Paris, dont la place de Grève, et pas seulement. Il y avait aussi la place Maubert, il y avait différents... Et après, on emmenait toujours les corps à Montfaucon, où ils étaient exposés, où ils achevaient leur décomposition. Ils n'avaient pas le droit à une sépulture. Donc, ils étaient privés de sépulture. Donc, on y a accroché quelques protestants à l'époque de la Saint-Barthélemy. Enfin, ça a été... oui, c'était un lieu qui a vraiment toute une histoire très, très, très rude.
Et comment est-ce que vous avez enquêté sur ce Paris pour le redonner à vos lecteurs
Alors, déjà, quand j'avais travaillé sur mon premier livre, j'ai commencé à travailler sur un journal d'un gentilhomme de campagne. C'est un des premiers... journaux qui a existé, mais lui traitait de la Normandie. Et sur Paris, on a un journal qui est extrêmement complet, qui est le journal de Pierre de l'Étoile. Après, on a des écrits, je dirais, romanesques. On a beaucoup de choses sur cette époque-là. Mais c'est vrai que sur l'aspect journal, c'est-à-dire extrêmement précis, Pierre de l'Étoile, qui a côtoyé les rois, quelque part était une sorte de chroniqueur extrêmement précis, qui a suivi finalement quasiment tous les fils de Catherine de Médicis. Donc c'est toujours intéressant de voir son regard là-dessus. Et on a le détail des exécutions. Alors après, voilà, après, il faut enquêter sur la ville elle-même, sur... Il y a plein d'autres choses. Je fais comme Laurence et sa sœur, c'est-à-dire je pars sur les lieux, même si ce Paris-là a disparu. Il reste encore des choses, il reste une ambiance. J'essaye d'y aller la nuit, en fait, parce que du coup, les voitures sont un petit peu moins présentes. La modernité est un peu moins présente. Et puis après, c'est vrai que c'est une habitude aussi de travailler sur le voyage dans le temps en tant qu'auteur. Donc... Voilà, c'est d'arriver à descendre, à se mettre dans une époque comme celle-là et dans un lieu.
Laurence Lefebvre, est-ce que vous avez des techniques pour ressusciter Paris, pour le retrouver ?
Bon, on n'a pas de véritable technique, Liliane et moi, mais disons qu'on lit énormément la presse de l'époque, puisqu'on a la chance, nous, qu'il y avait énormément de journaux, évidemment, à la fin du 19e siècle et ensuite, dans les années 20. On se sert beaucoup de tableaux. On va voir des expositions sur la peinture du 19e siècle, celle du début 20e, c'est plus difficile, on va vite passer au non figuratif, mais enfin, il y a quand même des peintres. La photographie est très importante, parce que sur une photo, on a vraiment des scènes vécues, les costumes, on a énormément d'éléments. Même avec une loupe, on peut voir le prix des consommations dans les cafés, ça nous arrive de faire des trucs comme ça. On lit évidemment les romanciers des époques dont on parle, parce que ça c'est très important pour le langage, puisqu'on fait en sorte, nous, que le langage, dans la mesure du possible, il n'y ait pas d'anachronisme. Donc ça c'est parfois difficile, il faut vraiment vérifier l'entrée au dictionnaire des mots, des fois il arrive qu'on commette des erreurs, mais c'est vraiment au maximum écrémé pour que ce soit crédible au niveau du langage. Parce que si vous voulez, nous, l'important pour nous, c'est que tout ce qui est décor soit réaliste, parce que l'histoire, elle, est parfaitement, comme dans la plupart des policiers, c'est invraisemblable. Donc, on aime bien que, au moins, tout ce qui est décor, lui, soit vraisemblable, soit réaliste. Et pour ça, on fait beaucoup de boulot au niveau de l'image, des mots. Et puis après, il n'y a pas vraiment de méthode. Moi, je ne sais pas, je serais incapable de vous faire un traité de comment écrire un roman policier historique. Je crois que chaque auteur va appréhender ça à sa manière et faire son roman. Vous savez, c'est comme n'importe quel roman. Je ne crois pas au genre. C'est-à-dire, pour moi, il y a des... C'est peut-être un peu réducteur ce que je vais vous dire, mais il y a des livres que j'aime lire et puis il y a des livres que j'aime pas lire, qui peuvent être des très bons livres ou des... Peu importe. Donc après, si j'y crois, si je rentre dans le livre, je ne vais pas chercher à savoir comment ça a été fait. Je crois que beaucoup de romans de Dumas, par exemple, ne supporteraient pas une enquête poussée parce qu'il y a des erreurs énormes. Mais moi, si je lis Dumas, je ne vais pas chercher. Alors nous, on essaye de ne pas en commettre. Hein, parce que maintenant, c'est vrai qu'on peut faire l'effort de chercher la vérité. Je pense que Viviane fait aussi beaucoup d'efforts de ce côté-là. Parce que c'est amusant déjà.
Oui, on apprend des expressions en lisant Claude Isner, par exemple. Qu'est-ce qu'il trouillotte du goulot, ce cabot ? Voilà, un chien qui bave.
Mais ça, je crois que c'est de l'argot, en fait. Parce que nous, il y a plusieurs niveaux. Il y a le langage populaire et puis il y a l'argot. Alors, il y a des expressions trouillotter du goulot, je crois que ça peut encore se dire. En revanche, on avait trouvé pour les Legris parler en bas-relief, que je n'ai jamais entendu. En fait, ça veut dire parler tout bas. Ou bien faire du télégraphe sous-marin, c'est quand un monsieur fait du pied à une dame sous la table. Bon, nous, voilà, c'est le côté rigolo, parce qu'on aime l'humour. Donc, ça passe par des expressions imagées, aussi.
Viviane Moore, vous faites aussi un travail sur la langue. Il y a des façons de s'exprimer qui sont très liées à l'époque. Il y a un vrai travail linguistique et lexical dans votre...
Ça fait partie aussi de la façon d'entraîner le lecteur sur une autre époque. C'est vrai qu'il y a une musicalité, tout comme il y a une musicalité de l'époque que traite Claude Isner, il y a une musicalité de cette époque-là. Donc, il faut essayer de la trouver tout en restant accessible, bien sûr. Et puis après, c'est vrai que c'était très imagé aussi. Donc, il ne faut pas se priver de faire connaître ces images-là.
Alors, pour ces travaux sur la langue, sur le lexique, où est-ce que vous allez ? Est-ce que vous fouillez dans les archives ou est-ce que vous...
Toujours pareil, en fait, c'est toujours... Ma première référence, c'est ce gentilhomme campagnard normand, parce que c'est un homme, c'était un homme simple, et c'est le premier journal qui a été étudié de ces époques-là. Il a écrit pendant 20 ans son journal tous les jours. Alors, n'allez pas imaginer un journal comme on le ferait maintenant, où le « je » apparaît, le « je » n'existe pas. Il traite de son environnement, il va traiter de sa famille étendue, de, finalement sa famille étendue étant ses serviteurs, c'est une vie beaucoup plus communautaire et beaucoup plus serrée qu'on peut l'imaginer, extrêmement intéressante. Il fait des voyages à Paris, il donne son avis sur Paris, il donne son avis sur les gens qu'il croise, etc. Et en fait, il a une acuité de vue et un langage qui, pour le coup, est à la fois celui d'un gentilhomme paysan, bien, qui aime la terre en plus. Il est très intéressé par toute l'avancée, puisqu'il est plutôt à cheval entre Henri III et Henri IV. Il est plutôt intéressé par toute l'avancée agricole qui se fait à cette époque-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et il essaye de le copier sur ses terres. Et il a à la fois cet aspect-là et à la fois il est cultivé, il lit à sa famille, à ses serviteurs. Et en même temps, dans tout ça, il y a à la fois une fraternité très forte et une violence toujours sous-jacente. Toujours. C'est-à-dire que cet homme qui a un frère bâtard, qui vit avec lui, qui vraiment partage sa vie, partage tout, un jour manque le poignarder sur une porte. Et on sent que la violence monte à une vitesse. Voilà, mais c'est normal. On est habitué à ça. C'est l'époque la pire pour les duels. Tout le monde se bat en duel. Il y a énormément de morts, même si le duel est déjà réglementé. Donc voilà, on est... voilà, la recherche du langage passe par ces sources-là, toujours.
Mais par contre, tout à l'heure, Laurence Lefebvre parlait des photographies. Vous n'avez pas de photographies, vous arrivez à faire des scènes.
J'ai des tableaux.
Des tableaux.
J'ai des gravures. Il y a quand même des sources iconographiques. Après, j'ai des descriptions écrites à moi de projeter, en fait, et de les transformer, de les visualiser, de me les approprier.
Donc, il y a aussi une liberté d'écrivain dans
cette résurrection de Paris. On est des auteurs de fiction, il ne faut pas l'oublier. Même si on aime l'histoire, on est des auteurs de fiction.
Pour en revenir à Paris comme personnage de roman, justement, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que Paris a beaucoup inspiré les écrivains. Évidemment, on pense à Victor Hugo, on pense à Eugène Sue. Qu'est-ce qui fait de Paris, d'après vous, qui écrivez sur Paris, une ville aussi littéraire ?
Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses à Paris, du point de vue historique. Donc c'est vrai que Victor Hugo, c'était dans Les Misérables, il y a l'enterrement du général Lamarre, qui s'est servi de fait, l'éléphant de la Bastille, bon, de choses qui l'avaient frappé. C'est une ville qui est très chargée en histoire, voilà. Et puis il y a eu beaucoup de... Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le Paris populaire, donc il y avait beaucoup de petits métiers. Il se passait beaucoup de choses dans la rue. Maintenant, vous n'avez plus tout ça. Nous, les bouquinistes, on est les derniers. Mais quand j'étais encore plus jeune, il y avait les marchandes de quatre saisons, il y avait les halles, il y avait des choses. Zola s'est beaucoup inspiré de ça. Il a écrit des carnets entiers sur, par exemple, quand il a écrit, avant d'écrire L'Assommoir, il est allé se renseigner sur les blanchisseries de la Goutte d'Or. Il en a fait des carnets et des carnets. Il y a un côté journalistique qui est très intéressant sur les métiers, sur tout ce qui est métier. Et nous, ça nous intéresse. Bon, il y a les transports, il y a Paris, comme toutes les grandes villes d'ailleurs, hein, je pense que ce n'est pas propre à Paris, mais les transports changent. Nous, entre la série Le Gris et la série qu'on a commencée, on s'aperçoit qu'il y a un rythme qui change, parce que au temps de Le Gris, au tout début des années 90, on est encore... tout ce qui est moyen de déplacement, c'est des chevaux. Puis on arrive très vite à l'automobile, hein, 92, ça va commencer à aller beaucoup plus vite. Et quand on arrive aux années 20, ben ça y est, on est presque dans le Paris qu'on connaît, avec les tramways, les autobus, les automobiles, les embouteillages monstrueux. Mais il y en avait déjà en 1900. Hein. Le métro apparaît en 1900 pour l'exposition universelle. Bon, Donc tout ça, nous, c'est ce côté-là qu'on voit, mais je pense que les romanciers du 19e siècle voyaient ça, parce qu'on l'a trouvé dans beaucoup de livres.
Donc Paris fascine les écrivains aussi par le fait que son visage est en perpétuel changement, évolution.
Voilà. C'est comme toute, je vous dis, comme toute grande ville. Hein. Je pense que les écrivains anglais sont fascinés par Londres. Nous, comme on habite à Paris, c'est le plus facile pour nous. On est un peu des fainéantes pour ça. On regarde ce qu'on a devant nous.
Viviane Mau, vous avez aussi...
Oui, mais c'est une perspective. Moi, c'est drôle, j'avais jamais abordé Paris, parce que c'est vrai qu'au niveau médiéval, je m'étais amusée plutôt à tourner sur des villes ou à l'étranger, mais jamais je n'avais abordé Paris au Moyen-Âge, j'aurais pu. Puis il y avait dit lustre de Vancier, donc je me suis dit autant aller sur des territoires qui n'ont pas été fréquentés. Et c'est vrai que par contre, j'ai trouvé que le 16e que j'ai abordé, puisque le premier roman de la trilogie alchimique commence donc au moment de la Saint-Barthélemy, j'ai pas trouvé tant de livres que ça qui traitaient du Paris de cette époque-là. Et moi, j'essaye toujours de me mettre dans des petits interstices qui n'ont pas été exploités. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Et là, il y avait quelque chose à faire et même l'alchimie, de la façon dont je l'ai abordée, n'était pas un angle qui a été abordé. Donc voilà, c'était plus cette idée-là.
Et on est aussi beaucoup, alors je ne veux bien sûr pas déflorer l'intrigue non plus pour ni de l'une ni de l'autre, et c'est toujours le danger dans ces débats, mais on est aussi beaucoup dans la médecine, dans les progrès de la chirurgie.
Oui, que j'ai découvert avec passion, puisque en fait, j'ai travaillé sur la faculté de médecine, sur les thèses, sur tout ce qui... et en fait, j'ai été très étonnée de ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, il y avait une grande modernité. C'était un drôle de mélange, parce que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il faut imaginer les chirurgiens comme étant la partie vulgaire de la médecine, et le médecin, au contraire, médecin humaniste, ne touchant pas ou très peu. Donc on est dans quelque chose de très inversé par rapport à la médecine qu'on connaît actuellement. Et j'ai été surpris par la recherche justement que certains faisaient, les questions qui se posaient. Alors dans celui-là, on aborde même beaucoup la chirurgie. Et en fait, j'ai discuté, puisque j'ai une belle-fille qui est chirurgien, et je lui ai posé des questions. On a beaucoup... D'ailleurs, les gens auraient été horrifiés de nos conversations parce qu'elles étaient assez précises et pas toujours sympathiques sur l'évolution d'un corps, sur les premières dissections, etc. Comme elle était femme, en plus, je voulais savoir son ressenti en tant que femme par rapport à sa première dissection, etc. Et finalement, on est arrivés toutes les deux à la conclusion que, quelque part, pour l'homme, pour le chirurgien, le corps humain restait toujours une terra incognita, et que quelque part, les chirurgiens qui ont le plus réussi sont des gens qui ont tellement opéré. Il faut voir qu'un des plus grands chirurgiens qui a opéré 2 siècles plus tard a quelque part fait sa main sur 600 cadavres pour arriver à commencer à comprendre notre anatomie et la façon dont elle marche, etc. Donc là, on est en plein dans cette période-là où, en fait, il y a des hommes extraordinaires, parce qu'il y a des premiers chirurgiens absolument étonnants, et notamment un chirurgien italien qui a inspiré un des personnages. Et ils n'ont pas le droit de disséquer. Ils ont, par exemple, la faculté a droit à 2 cadavres par an. Donc c'est rien du tout, et les cadavres se décomposent et on n'a pas eu le temps de finir, en fait. Donc voilà, donc ça pose énormément de problèmes. Donc évidemment, on passe par des biais divers pour se procurer des cadavres. Mais quelque part, c'est un peu toujours le cas. Et quand je discutais avec ma belle-fille, elle me disait, mais c'est étrange parce qu'elle a travaillé sur tout l'ensemble du corps humain. Et elle est allée en Italie pour travailler sur la tête. En Italie, les étudiants ont des têtes. Chacun a sa tête. D'où viennent les têtes? Je lui dis, mais d'où elles viennent, ces têtes? Je suis curieuse. Et elle me dit, on ne sait pas. Alors qu'en France, Pour avoir une tête, chacun, enfin chaque étudiant n'a jamais une tête à disséquer. Voilà. Donc il y a toujours un problème de matériel, et ce problème de matériel, évidemment, était très très aigu à l'époque, mais on le retrouve donc aujourd'hui.
Au moment de la Révolution, ils ont eu le choix là.
Voilà. on est vraiment dans le macabre hein, là, dans.
Dans le macabre et dans la vie.
Parce et dans la vie.
Quelque part, ces gens-là faisaient ça aussi pour sauver d'autres gens.
C'est, bien sûr.
Voilà. C'est vrai que vous et moi, si on se trouve face à un cadavre, on n'aura pas forcément le.
Oui. Vous parlez dans le micro ?
Vous ne m'entendez pas. Voilà, là c'est mieux. Pardon.
Merci. Laurence Lefebvre.
Oui.
L'inspiration, parce qu'on est quand même dans des histoires de détectives, d'enquêtes, des polars historiques. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration, justement, dans le fait divers, dans le...
Alors, nous, c'est... comme j'ai dit, on n'est pas très courageuses, Liliane et moi. Les meurtres, il y en a. On n'insiste pas trop. C'est un petit peu survolé, on va dire. Les personnages meurent. Et ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est l'enquête, c'est avant, c'est après. C'est pas forcément, disons qu'au point de vue médico-légal, on va pas très loin toutes les deux. On a choisi des époques où c'était encore possible de, disons, c'est un peu à la Sherlock Holmes, hein, c'est la déduction, c'est bon. Il y a pas beaucoup de côté scientifique dans nos livres. C'est un peu fantaisiste peut-être, mais il y a quand même des morts effectivement.
Et comment vous viennent vos idées, justement, ces idées un peu décalées?
On ne sait pas. Il y a un délire à deux. Disons qu'on part d'un scénario un peu élaboré, et puis à partir de là, quelquefois, on change tout. Et il faut que l'histoire progresse. Donc, il y a des meurtres qui surgissent. Voilà. Quelquefois, alors, dans certains livres, il y a beaucoup de morts. Dans celui qu'on est en train d'écrire, il y en a moins, nettement moins. Peut-être que c'est une évolution vers la non-violence, je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même des morts, hein. C'est des romans policiers, c'est le jeu.
Bien sûr, et il y a aussi, vous abordez beaucoup la question de la société, des classes, comme vous le disiez tout à l'heure, des classes inférieures.
Oui, on a voulu, le pari de Victor Legris, on a voulu montrer les deux aspects de la société, hein, les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et puis ceux qui en avaient. Mais on ne l'a pas fait, je ne pense pas d'une façon trop didactique, ça passe par le biais de personnages qui font partie intégrante d'un scénario. Et puis dans la librairie de Victor Legris, il y a des gens qui viennent régulièrement, qui sont des gens de la haute, on va dire, et qui sont, par exemple, celles qu'on a appelées les Mouquères, qui sont des dames assez riches. Et... Bon, mais nous, c'est le côté bon enfant. Hein. On n'essaie pas de refaire le monde à posteriori. Ça y est, c'est passé. C'est dans les postfaces, parce qu'on écrivait des postfaces à l'époque. Maintenant, ça y est, on a abandonné. Chouette, on a plus ce côté-là dans les Nelson. On mettait effectivement des renseignements assez nombreux sur l'année écoulée, l'année traitée dans le livre, puisque chaque Victor Legris se passe pendant une année précise des 12 dernières années du 19e siècle. Mais on parlait effectivement beaucoup de ce qui se passait socialement, et puis dans le monde aussi, les guerres, les progrès techniques liés aux guerres aussi, parce qu'on parlait de médecine, mais c'est vrai que les guerres ont permis de faire, hélas, de gros progrès, notamment au niveau des amputations, de ces choses très joyeuses. Bon, ça, ce n'est pas dans nos romans, c'est dans la postface.
Et on se rend compte que Paris, la France et le monde, finalement, sont un véritable cabinet de curiosité, selon les époques, toujours en évolution.
Nous, on a voulu montrer un Paris très cosmopolite. De toute façon, il l'était dès la fin du 19e siècle, et même avant, je pense. Et puis nous, on vient de cet univers-là, puisque je vous l'ai dit, on est de familles émigrées avant la guerre. Donc, on avait envie de montrer un Paris très diversifié et montrer aussi la pauvreté. Il y avait vraiment une grande pauvreté à la fin du 19e siècle. Il y a toujours, après la guerre de 14, c'est dur, hein, la France a été en partie rasée, il y a beaucoup de gens qui viennent de province qui ne trouvent pas à se loger, il y a une grosse crise du logement, c'est pas propre à notre époque maintenant, on mange mal, bon c'est dur, la vie est dure, on s'éclaire encore au gaz, nous c'est ce côté-là qui nous intéresse, c'est pas de montrer un univers brillant, doré, où tout va bien.
C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez, enfin, une découverte qu'on fait chez vous, Viviane Moore, c'est la police, hein, comme je le disais tout à l'heure. Cette organisation, le fait qu'il y ait un commissaire de police.
Un commissaire, oui, tout à fait.
Comment est-ce que c'est drôle. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'à l'époque c'était l'anarchie dans Paris et la Renaissance? En tout cas, moi, je pensais ça. Je pensais pas qu'il y avait une police qui
menait. Non, il y avait déjà une police donc très structurée, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup, étudié ça en fait. Enfin, moi personnellement, avant à l'école, je ne l'ai pas étudié non plus. Donc, c'est assez méconnu, mais oui, il y a une police, de toute façon héritière des gens d'armes du Moyen-Âge. C'est-à-dire, en fait, il y avait beaucoup plus, un peu comme on a au Japon, une police de proximité, qui après va plus ou moins disparaître, mais il y a une police de proximité avec un quadrillage, un maillage très fort. Et c'est ça qui faisait qu'on retrouvait finalement assez rapidement les gens. Après, bon, c'est vrai qu'on a un commissaire, je crois, qui vous a beaucoup plu et qui est très, qui aime bien Rabelais. C'est l'époque de Rabelais aussi. Hein, et donc, qui fait qui a un petit côté truculent aussi, qui aime beaucoup manger. Mais il n'a pas beaucoup le temps, le pauvre, et qui se trouve confronté à... Alors, il y a une police secrète aussi, puisqu'on va découvrir à l'intérieur de ce livre ce qui sera le sujet du troisième livre, ce qui est le bureau des affaires extraordinaires, puisque à l'époque de la Médicis, de Catherine de Médicis, qui était quand même une femme assez étonnante, redoutable, mais grande politicienne, en fait. Il y a eu énormément d'histoires, même, je dirais, de sorcellerie. Elle était très sensible à tout ce qui était oracle, à tout ce qui était...
Elle avait son... Monsieur Ruggieri, comme Ruggieri.
Voilà, elle avait Ruggieri, elle avait... qui, à un moment, a été en disgrâce, qui est revenu, enfin, qui était un drôle de personnage... qui finira très très mal d'ailleurs, puisqu'il va finir, comme il le pensait d'ailleurs, traîné sur les trottoirs de Paris et après avoir été encensé par les grands. Donc oui, elle est bardée d'amulettes. Et à côté de ça, c'est un grand politicien qui en fait ne veut pas la guerre et qui quelque part à un moment va pousser ses fils à quelque part faire alliance... Donc avec Henri IV, quelque part, elle pressent ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il faudra que Henri IV se convertisse pour devenir roi, et quelque part, elle va favoriser ça plutôt que le parti des Guises qui est quelque part en face d'elle et qui lui veut la guerre à nouveau, alors qu'elle est quand même à l'origine, à un moment, de la Saint-Barthélemy. Donc c'est tous ces personnages-là, voilà, qui donnent effectivement je dirais un aspect assez terrible, mais qui était la vie de l'époque avec toutes ces, je dirais, des contrastes auxquels on est et une violence auxquelles on est. Je ne vais pas dire qu'on n'y est plus habitué parce que la violence on connaît, c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même. Je dirais que la violence de chacun sortait de façon très très normal et tout le monde était habitué à ça.
Laurence Lefebvre, pour Claude Isner, donc pour oui. Votre sœur, la musique a une importance particulière, oui. Vous le disiez tout à l'heure.
Alors, dans la série des Le Gris, c'est un versant de notre vie très important, puisque c'est le côté livre, puisque Liliane aussi a été bouquiniste, donc Victor Le Gris est libraire. Et on s'est posé la question, avant même la fin de la série, si on en fait une autre, que va être le héros? Et très vite est arrivée l'idée de la musique. Parce qu'en fait, mon père et son frère chantaient dans les rues dans les années 36. Et mon oncle est devenu chanteur sous le nom de Francis Lemarque. Donc c'était les frères Marque. Donc la musique a imprégné notre jeunesse, toutes les deux. Mon père, lui, ça n'a pas marché pour lui, donc il est devenu bouquiniste, mais il a toute sa vie écrit des chansons. Et alors là, on s'est engagé sur un terrain un peu qu'on ne connaissait pas trop, qui est le jazz. Donc ça nous a demandé des recherches musicales, bon, qui nous ont beaucoup amusés, grâce à YouTube, je dois dire. Ça aide bien. On connaissait déjà le ragtime et on adore Gershwin. Donc il se trouve que 1920, c'est le début, de la célébrité de Gershwin et 21, ça collait, on pouvait faire chanter à Jeremy Nelson, Swanee, c'était, voilà, et puis on pouvait lui faire chanter du Irving Berlin. Parce que tout ça, c'est des choses qu'on a, on est nourris de ça, toutes les deux. Donc, ça demande des recherches, parce qu'on n'est pas du tout spécialiste du jazz, mais bon, je pense qu'on s'en est tiré à peu près, parce qu'on ne va pas non plus dans des domaines extrêmement spécialisés. Jeremy, il joue du piano et il essaye de gagner sa vie bon an, mal an. On ne sait pas encore quel va être son destin. Je pense qu'il va avoir quand même un petit peu de succès. Ça va marcher pour lui. Mais ça nous amusait et de retrouver aussi l'atmosphère des cabarets, parce qu'on a connu ça, nous, jeunes, avec notre papa et son frère. Et donc, c'est un autre aspect de notre vie qui est important, qui est la musique.
Et c'est vrai que c'est l'intérêt aussi de ces romans, de ce roman de Jeremy Nelson, c'est que vous disiez tout à l'heure que vous aviez évité Montparnasse. Vous évitez justement le cliché qu'on peut avoir, nous, sur le Paris de cette époque.
Oui.
Et on ne s'imagine pas qu'il y a une bande-son. Alors, c'est confus dans nos têtes. Et quand voilà. On lit, on a envie d'aller. Ben, effectivement,
c'est l'époque du muet, hein, déjà. Mmh. Vous n'avez pas de film parlant avant 29, donc c'est vrai que si vous regardez des films, les illustrations sonores, parfois, datent d'après l'époque. Bon. Mais il y a énormément de choses, en fait. C'est une époque d'une richesse musicale extraordinaire, mais même avant, hein, même 1900. Bon. Et alors, nous, on découvre, c'est-à-dire qu'on est les naïves. Parce qu'on ne sait pas tout ça d'avance. Donc, je ne sais pas, Viviane, tu découvres sûrement des choses aussi en faisant des recherches. On découvre des musiciens, des chanteurs, des gens qui étaient archi-célèbres, qui sont tombés dans l'oubli. Et ça nous fascine. Donc, oui, on s'amuse. C'est une manière de s'évader, pour nous aussi. Hein. Il n'y a pas que pour les lecteurs. Les écrivains, ils ont besoin de s'évader.
Et de redécouvrir.
Et de redécouvrir, voilà.
Et justement, vous êtes encore bouquiniste, votre sœur a été bouquiniste, si j'ai bien compris, votre père aussi.
Oui.
Vous avez pu être témoin des changements de Paris.
On a été témoin surtout du changement du métier de bouquiniste. Mmh. Parce que malheureusement, ce n'est plus du tout ce que c'était. Bon, malheureusement, on a toujours tendance à dire malheureusement. La société change, le monde change. On est dans le monde d'Internet. La culture semble être légèrement en baisse, mais est-ce vrai? Je ne peux pas non plus, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas. Les bouquinistes eux-mêmes ont cédé à une certaine facilité parce qu'ils se sont mis à vendre des choses qui n'avaient plus rien à voir avec les livres, notamment des cadenas pendant une certaine période. Bon, ça m'a beaucoup choquée. Beaucoup de bouquinistes ne connaissent plus les livres. Non seulement le contenu, mais la bibliophilie, qui est quand même quelque chose de fondamental. Librairies anciennes ont tendance à fermer. Néanmoins, il reste heureusement des gens qui achètent des livres, mais c'est plus du tout ce que c'était. Alors c'est vrai que ça change, ça c'est sûr. Après, on a toujours tendance à dire c'était le bon temps quand j'étais jeune, mais moi j'ai un livre d'Octave Uzan sur les quais qui date de 1893 et qui dit « Les quais sont bien tombés, ce n'est plus, on n'y trouve plus rien ». 1893.
Donc il y a de l'espoir encore.
Donc voilà, il faut toujours être dans le positif. Il faut espérer que les gens vont se reprendre, qu'ils vont relire, rechercher. Il y a toujours des gens qui cherchent. Il y a un manque d'espace, il y a un manque d'argent, il y a un manque de temps, il y a peut-être un manque de culture, je ne sais pas. Mais il reste, enfin il en reste. Sur les quais de Seine, je vous incite à y venir parce qu'il reste des bouquinistes hein, sur plusieurs quais. Bon, voilà.
On viendra vous voir.
J'espère.
Viviane Moore, est-ce que le fait d'écrire sur Paris, le Paris de la Renaissance en l'occurrence, change votre regard sur le Paris actuel? Est-ce que ça vous rend nostalgique? Est-ce que ça vous soulage de ne pas vivre dans ce Paris que vous décrivez?
Je suis pas une urbaine à la base. Donc, je suis quelqu'un qui aime les grands espaces, qui a un fort tropisme, je dirais, vers le nord et le grand nord. Et les déserts et les pays comme ça. Donc, je suis à la limite plus à l'aise avec le Paris ancien, effectivement, qu'avec le Paris récent. Après, ce livre-là, ça a été aussi pour moi l'occasion d'avoir une héroïne féminine confrontée à la ville, puisqu'en fait, l'héroïne est une fille de médecin et d'alchimiste, et le premier épisode de cette trilogie, en fait, est quelque part très particulier. Et j'y étais moi-même. Enfin, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup puisque j'ai vécu un peu quelque chose comme ça. Donc, Sibylle est quelque part enfermé chez son père au moment de la Saint-Barthélemy, et heureusement, mais il se passe que son père ne voudra pas la laisser sortir. Et donc, il faudra attendre finalement ses 16 ans pour qu'un événement qui est l'événement clé du premier livre la confronte à la ville. Et donc, elle qui ne connaissait que le laboratoire, la maison et le jardin clos dans lequel elle vivait, qui était toute sa vie, va se prendre de façon extrêmement forte le Paris de l'époque, avec tout ce qu'il a à la fois de truculent, de dangereux, de fascinant. Et voilà. Et moi, je suis un peu Sibylle par rapport à la ville, quand même encore aujourd'hui.
Et vous retrouvez ce Paris quand vous vous promenez, vous disiez la nuit ?
Oui. Enfin, j'ai eu une époque où j'étais photographe et en fait, je photographiais la nuit. Et j'ai toujours eu une grande fascination pour la nuit. Parce qu'on y voit des choses qu'on ne voit pas autrement. Et c'est vrai que oui, si je devais choisir, c'est le Paris de nuit que je préfère. Oui.
Vous pensez qu'on peut ressentir les émotions d'une nuit Sibylle Marchand ?
Oui, parce qu'on arrive des fois à des moments d'intemporalité où oui, on peut faire le voyage dans le temps.
Il y a des moments privilégiés comme ça pour vous où Paris vous apparaît un peu intemporel aussi ?
Non, je peux pas dire que j'ai de moments privilégiés. Il y a des lieux privilégiés. Des fois, il faut être au bon moment, au bon endroit. Et vous vous sentez hors du temps. Et puis, vous voyez brusquement sur les murs des traces anciennes. Justement, en face de mes boîtes, il y a une très, très belle enseigne qui a été conservée et qui date, je pense, du 19e siècle. Et des fois, je regarde en rêvant. Je regarde aussi Notre-Dame. J'ai la chance d'être en face de Notre-Dame. Bon, c'est vrai que c'est quand même très beau. Hein. C'est une belle ville. Moi, je suis amoureuse de Paris. Hein. Et du Paris... Je dois dire, avec Liliane, on a été marqué par les années 50. Hein. Donc, quand on voit les photos des photographes humanistes, on voit ce que c'était que ce Paris-là, oui, il y a un fort attachement. Et puis, il y a des traces sur les murs pour qui s'est regardé. Il y a des petites choses, même pas que sur les murs. Sur les quais, vous avez des gros anneaux où on attachait les chevaux, les bateaux. Enfin, il y a des choses qui restent. Hein. Mais il faut savoir regarder. Il faut prendre son temps. Il faut bien regarder les petits détails.
Savoir redécouvrir la ville aussi. Est-ce que les transformations récentes sont par exemple, les nouvelles constructions qui peuvent apparaître ou les décisions qui sont prises ou ces publicités qui sont mises sur les bâtiments ? Est-ce que c'est des choses qui vous dérangent en tant que...
Je ne peux pas dire que j'aime ça. Je vais être tout à fait honnête. Je ne suis pas amoureuse de la Défense. Je commence à peine à m'habituer à Beaubourg. Alors, vous voyez, j'aime pas beaucoup la nouvelle Bibliothèque nationale. Bon... J'ai peut-être tort. Hein. Des fois, je me remets en cause parce que je me dis il faut être de son temps. C'est vrai que je ne devrais pas. Mais bon, tout ne me plaît pas, effectivement. Les projets futurs sont un peu inquiétants. Mais en même temps, le Paris de 1900, il faut bien voir qu'il y a des gens qui ont trouvé que la Tour Eiffel était une chose hideuse, que les Halles, c'était pas beau, que toute l'architecture métallique, c'était pas beau. Il y a eu à chaque époque des gens pour dire c'était mieux quand j'étais jeune et c'était beaucoup plus beau avant. Donc je me remets en question à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez ? Et ça change. On ne peut pas empêcher les choses de changer.
C'est vrai que les halles qui sont tellement décriées aujourd'hui, avec les nouveaux travaux qui ont été faits...
Les halles, ça faisait vivre en plus tout un petit monde. Hein. C'était quand même pas laid, les halles de Baltar. Il y a un pavillon qui a été reconstruit à nos gens, mais alors c'est un truc, c'est pour la frime un petit peu, je dirais. C'est plus les halles, quoi. En même temps, au moment où il y avait les halles, je suppose que les gens, beaucoup de gens trouvaient ça sale, malsain, pas beau, voilà. Et disaient, de mon temps, c'était nettement mieux Paris.
Donc, les futures générations d'écrivains écriront sur les halles d'aujourd'hui.
Je crois que c'est un peu...
Qu'émotion.
Oui.
Et on pense en vous lisant, on pense au dicton de Paris, hein, fluctuat nec mergitur, donc il est battu par les flots, mais ne coule pas.
Oui, oui.
Voilà, et justement, on se rend compte qu'à la Renaissance, Paris a traversé ses pestes, a traversé ses guerres, a traversé la Saint-Barthélemy. Il y a eu ces gibets à ciel ouvert qui finalement n'existent plus, qui ont été remplacés par... il y a en creux aussi les conflits. Hein. On passe avec les romans de Claude Isner à une fin de siècle. Et puis, on se dit qu'entre-temps, il y a eu la guerre, et puis qu'ensuite, il y a ce Paris que vous décrivez. Donc, on se rend compte que Paris se renouvelle et survit sans arrêt.
Il se renouvelle complètement, il survit, comme le monde essaye de survivre. Maintenant, jusqu'à quand, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas prophète. Hein, mais... Oui, il y a quand même... Puis, il y a encore un certain charme, malgré tout ce qu'on a dit, les voitures, le bruit, l'insécurité. Bon, je pense qu'il y a quand même... Il n'y aurait pas tant de gens qui viendraient se promener à Paris, mais... Moi, c'est vrai que je suis parisienne dans l'âme. J'aime beaucoup cette ville. J'ai du mal à m'en aller longtemps. Je peux partir. Je suis comme Viviane. Je suis tentée par les grands espaces, mais je ne crois pas que je pourrais quitter Paris.
Viviane, ça vous a réconcilié un peu avec la ville ou pas, toujours pas, non ?
Non.
Pas une parisienne.
Non. J'ai besoin de calme et de solitude, de la mer. Ou là, je me trouve très bien en face du lac. Je suis décidément pas une urbaine, mais je l'étais pas, enfin, toute petite. Ma mère était maître verrier, donc j'ai vécu dans un univers assez particulier. Et plein de charme, un atelier de vitrail pour un enfant, c'est magique. Je rêvais d'une robe en vitrail, voilà. Donc moi, je suis aussi habituée quelque part à, comme toi, à un métier qui a beaucoup disparu et à vivre dans une ambiance très particulière comme ça. Et ça, j'y étais attachée. Mais après, c'est vrai que l'urbain pur et dur, non, c'est pas pour moi. En fait, je m'en méfie beaucoup. Je me méfie de l'accélération, je me méfie parce qu'il est opposé à mon mode de pensée. J'ai besoin de calme pour réfléchir, j'aime structurer mes pensées, j'aime... Et tout ça va contre, en fait, l'accélération va contre. Donc je suis assez méfiante, je suis comme Sybille.
Oui, donc finalement, parler de Paris, c'est aussi parler de soi, mais d'un soi
oui,
totalement
bien
différent.
Oui, bien sûr, oui.
Oui, mais Paris sera toujours Paris. Comme dit la chanson.
Comme le dit la chanson, justement. Et alors, si j'ai bien compris, on va retrouver Jimmy Nelson dans un prochain roman.
Oui, il est en train de. Il est en train de se battre contre des forces maléfiques. Et nous Viviane... aussi, d'ailleurs, parce que c'est dur.
Viviane Moore, vous allez avoir le troisième tome de.
Voilà, avec qui s'appellera Le Bureau des Affaires Extraordinaires, où on va plonger. Un peu avant la mort de l'assassinat en fait de Henri III, donc encore une période mouvementée, et on sera à la fois en alchimie, en médecine et dans la politique de cette époque-là, oui. Avec Sybille, bien sûr, je ne peux pas la quitter, et avec Jean Dumoncel, mon petit commissaire préféré.
Il reste un petit temps pour les questions, si vous avez des questions à poser à nos auteurs.
Bonjour, je voudrais m'adresser à Viviane Moore parce que
bonjour.
J'ai lu, dans le courant de cette année, j'ai lu le beau livre de Jean Tellet, Héloïse Houille, qui nous ramène dans un Paris médiéval. Alors,
oui.
Est-ce que vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé ? L'avez-vous lu d'abord ? Oui.
J'ai lu le début.
Ah, vous n'avez pas été au bout, d'accord. Bon.
Non.
Donc très
non.
Bien. Donc la question.
Non, j'ai lu le début. Non. C'est vrai que j'ai pas, je dirais, la même vision que Jean Tellet sur cette époque-là.
Il y a de la gloire, hein, de sa part.
Oui, bien sûr. Oui, bon, mais non, c'est vrai que je l'ai pas. Ça serait donc je ne donne pas d'avis.
D'accord.
Voilà.
Et puis pour Madame Misner, je voudrais dire que c'est vrai que Paris est une ville fascinante et qu'on la connaît jamais, mais. Moi, je suis allé à Paris le mois dernier voir mon fils. Et j'étais dans le quartier derrière Sainte-Geneviève, que je croyais bien connaître. Et puis, je me suis épaté en voyant un bâtiment qui avait l'air militaire. Et j'ai découvert que c'était en fait l'ancienne école polytechnique, que je ne connaissais pas outre mesure.
Qui est magnifique. Ce quartier est magnifique. Oui.
Mais ce qu'il y a de formidable dans Paris, je dirais, c'est que il y a toute une géographie qui est liée à l'histoire et qu'en fonction des époques, par exemple, Montfaucon dont vous parliez, c'est le Moyen-Âge, bien sûr, c'est Villon, etc. Il y a d'autres pôles qui changent au gré des époques.
Oui, tout à fait.
Et je dirais que par rapport à d'autres villes, Paris est peut-être un peu plus timide à évoluer.
Je crois.
À changer.
Il paraît que je ne suis pas allé à Londres depuis longtemps, mais il paraît que c'est méconnaissable.
Londres fait des choses beaucoup plus audacieuses Et Berlin, que dirait-on de Berlin ?
Oui, oui, oui.
Bon, ben Berlin, je pense, il y a un cas oui. particulier, mais enfin...
Oui.
Mais
le cœur de Paris, c'est assez homogène.
On est
homogène,
très timoré.
C'est assez homogène. Est-ce qu'on est timoré ? Je ne sais pas. Ce qu'il faut. Vous savez que le quartier où je travaille a failli être rasé dans les années 60, avant.
Montebello, là.
Tout le quartier où habitait M. Mitterrand, la rue de Bièvre, c'était... Il y avait un projet qui était de tout raser et de construire des HLM.
Oui.
C'était bien avant que j'étais encore petite. Oui, oui, oui. Bon, et il y a eu un vent de protestation, une pétition qui a sauvé ce quartier, heureusement, parce que c'est quand même un très beau quartier, mais qui était un quartier très pauvre dans les années 1900-1920. C'était un quartier de chiffonniers, de ramasseurs de mégots, vraiment très pauvre. Oui. Et ce quartier, maintenant, est très riche. Oui. C'est très cher d'habiter là. Bon. Mais c'est quand même, il vaut mieux l'avoir sauvé, je pense.
Bien sûr. Mais c'est comme le Marais qui a connu une époque où c'était un peu interlope et maintenant où c'est le lieu où s'agglutinent les grandes enseignes, etc.
Ça change. Je vous dis, la rue de Lappe, c'est pareil. Hein, c'était...
Oui, bien sûr. Et quand vous parliez des bouquinistes qui s'étaient lancés dans la vente des cadenas, c'était pour cadenasser le pont de l'Archevêché
C'était pour cadenasser le pont de l'Archevêché, puis aussi le pont des Arts.
Oui.
Alors, le pont de l'Archevêché, ça y est, ils se sont enfin décidés à le rénover entièrement.
Oui,
c'est très beau ce qu'ils font, parce qu'ils ont gardé le grillage et mis une sorte de plexiglas de part et d'autre. Donc, on conserve la structure.
Ça y est, il n'y a plus de
rambardes.
Il n'y a plus de cadenas.
Il n'y a plus de cadenas, sauf dans de tout petits espaces où vous trouvez un tout petit anneau et les gens arrivent à en glisser 3 ou 4. Bon, ça, je trouve que c'est mieux. Hein, cela dit, les bouquinistes, je ne les critique pas parce qu'il faut gagner sa vie. C'était un peu abusif. Là.
Mais à propos de cadenas, cet été, j'étais quelque part en France, j'arrive plus à me rappeler où, et il y avait un cadenas quelque part, tout isolé, qui ne demandait, je pense, qu'à essaimer des petits frères, des petites sœurs, mais enfin, ça m'a bien fait sourire parce que ça faisait vraiment tout à fait inattendu. Voilà, je vais rendre le micro parce que je ne veux pas le monopoliser.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos auteurs ? Monsieur ?
Est-ce qu'il faut lire vos livres dans le bon ordre ou est-ce qu'on peut on peut commencer par n'importe lequel ? J'en dirais même, ça s'applique un peu en fait.
Dans le cas de la... Ce sera une trilogie alchimique. Oui, il faut mieux commencer par le premier. Donc c'est l'ordre n'est pas trop compliqué puisqu'il n'y en a que deux pour l'instant. Je suis en train d'écrire le troisième. Il faut commencer par le premier parce qu'on fait connaissance avec le personnage et c'est vrai que c'est important de la connaître à ses débuts et de connaître Jean à ses débuts, oui.
Je vous dirais un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a conçu nos livres de manière à ce qu'ils puissent être lus séparément les uns des autres, mais comme ils respectent une chronologie, les personnages évoluent. Donc si vous voulez les suivre dans l'ordre, il vaut mieux commencer par le premier à chaque fois. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Hein, voilà.
Quoi qu'il en soit, vous aurez sans doute une nouvelle inspiration pour regarder Paris autrement après avoir lu les livres. Alors vous êtes toutes les deux en dédicace
Oui, nous aujourd'hui allons et demain. Retourner toutes les deux au salon de 16h30 à 18h30. Et puis demain, 10h, 12h, je ne sais plus exactement. Et 14h, 16h, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je crois que Viviane part un petit peu avant.
Oui, moi je pars à 15h, je crois, demain.
En tout cas, on peut
mais
vous retrouver.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème.
Voilà, et retrouver vos livres à l'espace du salon littéraire et des dédicaces. Ben, merci à toutes les deux. Merci pour votre écoute. Et puis, bonne fin de journée à tous.
Merci à vous. Merci.